Dimbéa, deuxième ville de Calédonie durement touchée par les émeutes, le maire de la commune, Johan Lecourieux, était l'invité de Transparence vendredi midi. Le marché Broussard s'invite à Boulary, l'occasion pour les marchands de rue de se fabriquer une clientèle régulière. Reportage dans ce journal. Et puis à la FOL, un repas partagé a lieu à l'initiative de plusieurs associations. En métropole, Emmanuel Macron se félicite de l'organisation sécuritaire autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Le chef de l'État était en visite à la préfecture de police dans la capitale. Une revendication non confirmée après le sabotage qui a causé la paralysie du trafic TGV. Elle émane d'un groupe d'ultra-gauche inconnu jusqu'à ce jour. Et puis la France a décroché son premier titre olympique ce matin. C'était du rugby à 7. Les Bleus ont battu les Fidji en finale du tournoi. Dans ce journal, notre page spéciale JO 2024 avec le résumé complet des premières épreuves. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un faux week-end. Johan Lecourieux a été frappé par l'intensité de la violence que l'on voit à l'œuvre depuis le 13 mai. Il parle d'une volonté destructrice et d'un désastre social. Le maire de Dimbéa, par ailleurs membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Et Dimbéa, la deuxième ville de Nouvelle-Calédonie, a été durement touchée par les violences insurrectionnelles auxquelles on assiste depuis près de 2 mois et demi. Les dégâts sont très importants dans la ville, nous a confirmé le maire de Dimbéa.
C'était celle qui avait le plus progressé ces 15 dernières années et on s'aperçoit qu'il y a à peu près 75% du tissu économique, c'est environ plus de 140 entreprises qui ont été incendiée ou totalement détruite sur la commune. Donc ça va avoir des conséquences sur les services de proximité. Nous avons aussi beaucoup d'équipements publics, l'hôtel de police, le studio du 56, le centre culturel, une partie du centre aquatique, le mur d'escalade, donc je peux en citer. Malheureusement, on a eu aussi notre lot de dégâts et ceci va avoir des conséquences durables sur la vie sociale et sportive et associative de la commune de Dimbéa.
Le tissu économique, les écoles et les infrastructures ont été la cible des émeutiers et il a été demandé à Johan Lecourieux pourquoi Dimbéa avait été particulièrement frappé par ces violences.
Déjà, Dimbéa est au cœur de l'agglomération. Comme je le dis, c'est la seule commune qui a une frontière avec Nouméa, Mandor et Païta. C'est aussi une commune qui est, point de vue démographique, très représentative de la Nouvelle-Calédonie. C'est très pluriel, c'est très diversifié au niveau des communautés sur la commune. Mais c'est aussi là où nous accueillons depuis plus de 15 ans les deux plus grandes ZAC provinciales de Nouvelle-Calédonie et de France, et avec une quantité de logements sociaux qui ont été réalisés par les différents exécutifs provinciaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être des manques de mesures d'accompagnement ou un accompagnement pas suffisant a été peut-être fait autour de la création et de la réalisation de ces logements sociaux et qui nous amène maintenant à vraiment cette crise urbaine que nous avons pu connaître.
Un problème d'urbanisme dont il va falloir tirer les conséquences dans l'avenir et pour la reconstruction. Il faut faire différemment et autrement, déclare le maire de Dimbéa.
C'est-à-dire qu'il faut planifier l'aménagement de notre territoire totalement différemment et surtout de voir sur la densité d'accueil des différentes possibilités de logement et de ne pas concentrer dans des résidences denses trop de logements sociaux, trop de populations en difficulté et surtout si on le fait, de le faire avec des mesures d'accompagnement assez significatives. Et donc si on veut faire du logement social, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens à côté des mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, des équipements sportifs, des équipements socioculturels, mais aussi des mesures sociales qui vont avec. Mais je pense qu'il faut maintenant, en tout cas sur la commune de Dimbéa, c'est les conclusions avec notre exécutif et avec les échanges que je peux avoir avec les différents habitants depuis quelques semaines, c'est vraiment de faire autrement, de faire moins dense et de le faire de plus aéré au niveau de l'aménagement pour permettre à l'ensemble, même des nouveaux habitants, de s'approprier leur lieu d'habitation.
Et après ces 2 mois d'exactions, d'incendies et de violences, la population de Dimbéa est inquiète et en colère, affirme le maire.
Ils sont inquiets, ils sont surtout angoissés de la situation parce que depuis plus de 2 mois maintenant, l'ordre n'est pas totalement rétabli. Moi, je tiens à saluer aussi l'ensemble des barrages de voisins vigilants qui sont installés sur la commune dès le premier jour pour pouvoir se sécuriser. Pour l'instant, on sent de l'inquiétude, on sent aussi de la colère sur ces 15 ans de gâchis qui ont été brûlés en une semaine, malheureusement. Et donc, il y avait des gens qui venaient s'installer sur Dimbéa parce que c'était une commune dynamique où on pouvait avoir le loisir, le travail, la qualité de vie. Et là, en une semaine, le rêve de certains a disparu. Donc, c'est très compliqué. Et je peux comprendre cette colère. Mais nous sommes une ville de 38 000 habitants, la seconde ville du territoire. Et on n'a pas d'autre issue que de la reconstruire et de rebondir. Et donc, c'est l'objectif de l'ensemble des élus qui m'accompagnent de pouvoir reconstruire cette ville et de lui donner vraiment et de renaître de ses cendres.
Dans un premier temps, la priorité sera d'apporter des services aux administrés, relève le maire de Dimbéa, qui indique, à titre d'exemple, qu'il n'y a plus d'agence bancaire dans sa commune. Il faudra ensuite passer par une phase de démolition de tout ce qui a été détruit, avant de passer à la reconstruction, qui ne débutera pas avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Mais malgré ce contexte, Johan Le Courrieux estime qu'il ne faut pas avoir peur du vivre ensemble.
L'histoire de la Nouvelle-Calédonie est ainsi faite, c'est fait de haut et de bas, de tensions. Le vivre ensemble est un chemin très chaotique, qui est difficile à emprunter. Et on s'aperçoit dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie qu'il ne faut pas avoir peur de se vivre ensemble, parce que même s'il est difficile, même si pour certains élus il est complexe, mais je pense qu'il faut poursuivre. Et les élus de terrain que nous sommes, les maires, on est confrontés au jour le jour avec ce vivre ensemble. Et je vois, moi, à Dimbéa, nous avons la ville la plus représentative, point de vue ethnique, de la Nouvelle-Calédonie. Et toutes les semaines, nous faisons des mariages mixtes. On a un niveau de métissage qui est maintenant difficile, de voir les origines dans les écoles maternelles ou primaires, de voir tout ce qui se passe. Et donc, on ne peut pas lutter contre ce vivre ensemble. C'est notre destin.
Au chapitre politique, le maire de Dimbéa se félicite du report des élections provinciales. Il estime que c'est une sage décision et il pense que la question du dégel du corps électoral ne se posera pas de la même façon.
Si le président convoque des discussions dans des délais assez courts, c'est qu'il a une idée aussi, je pense. Il a tiré aussi les conséquences de ce qui vient de se passer ces derniers mois, de la manière dont ça a été mené. Et puis j'ai envie de vous dire, au vu des dernières élections législatives avec un corps ouvert, vous savez, maintenant la question du corps électoral se pose totalement différemment.
Peut-être pas chez les indépendantistes, si c'est une notion qu'ils ont intégrée, selon vous.
Tout le monde peut évoluer, donc peut-être qu'après avoir détruit l'économie d'un territoire, et pour une question qui était sûrement très politique et qui servait peut-être de détonateur pour un, de valorisation pour d'autres, on s'aperçoit que les élections législatives avec le corps le plus ouvert possible a donné des résultats qui peuvent remettre en cause l'ensemble du débat sur des gels du corps électoral.
Johan Le Courrieux, invité de Transparence, une interview qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
La nuit a été relativement calme dans les communes de Nouvelle-Calédonie. À Païta, un commerce du centre du village a toutefois subi une tentative de cambriolage. Des assaillants ont été mis en fuite par les forces de l'ordre. Quelques branchages et débris dans le col de la pirogue ont été signalés, mais retirés ce matin. À noter également ce matin cette autre tentative de cambriolage au Mont d'Or, cette fois dans le restaurant La Popote à Boulary. Les forces de l'ordre, là encore, ont mis en fuite les individus. Et ce matin, c'est le marché Broussard qui s'est installé à Boulary, justement. Sur place, une vingtaine de commerçants venus de La Foy ou encore de Bouraille. Une occasion pour le marché municipal d'accueillir de nouveaux producteurs et de se faire connaître d'un peu plus de monde. En effet, depuis le 13 mai, de nombreux marchands de rue ont fait leur apparition. Cette concurrence a pu occasionner une perte de clientèle pour le marché de Boulary, tant chez les acheteurs que les vendeurs. Aujourd'hui, le coordinateur du marché, Olivier Surgeon, invite ses vendeurs de rue à s'installer au marché.
Le problème, c'est les bords de route, en fait. Beaucoup de gens ont perdu leur job, ils cherchent à survivre. Donc, on ne peut pas reprocher à des gens de travailler et de chercher un moyen de subsistance. Mais c'est clair que les bords de route deviennent une vraie concurrence pour les marchés classiques. Tous les gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour acheter des fruits et légumes, c'est des gens moins qui viennent demander un marché. Alors, c'est sûr qu'on s'installe, on ne demande rien à personne, on ne paye rien. Quand c'est gratuit, c'est toujours le meilleur prix, hein, de toute façon. Un marché, c'est clair que ça coûte un petit peu d'argent. Pour autant, nous, sur Boulary, par exemple, le prix des tables est à 2100 francs à l'intérieur, et vous bénéficiez quand même d'un confort minimum avec des toilettes, avec de l'eau, l'accès à l'eau potable, du courant aussi pour brancher des congélateurs ou du froid. C'est pour ça que j'invite les gens qui veulent se joindre à nous, puisqu'on cherche des exposants. On a récupéré quelques-uns d'ailleurs, justement, pour ce marché Broussard. Et donc, j'appelle, enfin, tous ces gens-là qui sont un peu de manière anarchique disposés dans les agglomérations, de venir nous voir et de prendre contact avec nous.
Et parmi les artisans présents ce matin, une vendeuse de mandarines était justement marchande de rue au Pont des Français. Aujourd'hui, elle s'installe à Boulary pour la première fois, un test qu'elle reconduira à l'avenir si la clientèle est au rendez-vous. Ses produits, eux, viennent tout droit de La Foy. Elle raconte cette reconversion inattendue pour s'adapter à la crise et les difficultés d'acheminement de la marchandise.
Avec les événements qu'il y a eu, on a perdu notre emploi et il a fallu penser à comment est-ce qu'on peut rebondir. Et du coup, on a fait une reconversion professionnelle de partie administrative. Et ben, je passe vendeuse de mandarines. On habite sur Yahweh et donc mon mari fait la route jusqu'à La Foy pour avoir des mandarines et des oranges pour qu'on puisse en faire profiter la population du Mont d'Or et de Nouméa. Au début, c'était c'était compliqué. La première fois que mon mari est descendu jusqu'à la foi, il est resté bloqué 4 jours sur Boulou Paris. Là, ça va. Il arrive à faire l'aller-retour aisément. Il fait l'aller-retour, il arrive. On vend ça tout de suite. Ça part comme du petit pain.
Son mari et elle ne sont pas les seuls exposants à rencontrer des difficultés pour transporter leurs marchandises. Ce matin, 3 vendeurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux. Malgré tout, une 20aine de marchands étaient bien présents ce matin et prêts à mettre à l'honneur les produits du Caillou. Autre initiative, Michael Gineski, un repas partagé sur les hauteurs de la FOL à Nouméa. C'est l'action solidaire du jour. Elle se déroule à l'initiative de plusieurs associations.
Métissage des cuisines pour se retrouver dans le sens du partage, remettre au goût du jour ce qui rassemble la Calédonie. C'est le mot d'ordre de cette journée, un événement que beaucoup attendaient de longue date, comme en témoignent ses participants.
On a décidé de partager notre culture, donc des crêpes vietnamiennes Bánh Cuốn, spécialité maison en plus.
Je crois qu'on a besoin un peu de se retrouver tous ensemble, parce que c'est là qu'on voit la solidarité entre les gens ici en Calédonie.
Par les temps qui courent, on en veut davantage, on en veut beaucoup plus.
C'est bien, net, on sort un peu.
Ça va le coup de venir, quoi. J'ai marché de magenta jusqu'ici. Hein. C'est très bien, parce que de nos jours, c'est pas... Ce ne sera pas évident et puis bonne initiative et c'est très bien. Bravo quoi.
On fait partie de la Nouvelle-Calédonie et puis on partage nos connaissances et puis nos cultures. Je fais des gelées avec les fruits du Caillou. J'ai apporté ma contribution. Comme en Calédonie il y a plein de cultures, et ça enrichit. On félicite les organisateurs. Ça faisait un moment qu'on voulait du concret quelque part. On voulait quelque chose de vivant. Voilà. Il n'y a rien de meilleur et puis ça va rassembler tout le monde.
Mais ça c'est extraordinaire, on devrait faire ça plus souvent, bien sûr. Il faut qu'on fasse ça tous les week-ends.
Plusieurs associations sont donc parties prenantes dans cette initiative, concoctée notamment par le groupe Cuisine Calédonienne, dont Manatea Kiaura est le responsable.
Ce que je voulais donner, c'est du bonheur aux gens, du partage, et prouver que la cuisine rassemble du monde, met tout le monde d'accord en fait, que tout le monde est d'accord, et que pour moi, la cuisine est synonyme de vivre ensemble, et ce qui est important aujourd'hui en fait, de nos jours, avec ce qui se passe. Quoi. C'est une action commune, et d'où le mot solidarité, donc j'ai demandé aux gens de surtout amener le sourire, pas forcément amener quelque chose, mais ils ont tous amené un petit peu à manger. Et puis avec l'aide de mes amis de la FOL et Calédo Clean, le Snack Panorama qui est là, et la Banque Alimentaire de Nouvelle-Calédonie, il y a de tout de bonne ambiance, et puis j'espère que les gens vont passer une très bonne journée.
Des personnes du Mont d'Or Sud, membres des associations, souhaitaient venir, mais n'ont pas pu, étant toujours bloqués. Un message de soutien leur a été adressé lors d'une coutume avant le repas. Un événement qui se veut également éco-responsable et qui prône le zéro gâchis, avec redistribution de ce qui n'aura pas été consommé à ceux qui sont dans le besoin. Ce repas partage se poursuit cet après-midi pour tous ceux qui veulent participer sur les hauteurs de la FOL.
Merci Mickaël. Midi et 13 minutes dans un instant, l'actualité en métropole.
Le service des bourses et de l'enseignement supérieur de la Province Nord informe les jeunes ressortissants de la Province Nord désirant poursuivre des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger que la campagne de demande de bourse 2025-2026 a débuté depuis le 1er juillet 2024 et s'achèvera le 31 octobre 2024. Pour effectuer cette demande, les démarches se font toujours en ligne bourse.province-nord.nc.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Gilles Ménage.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris s'est donc déroulée sans aucun incident et notamment, bien sûr, grâce à la mobilisation de pas moins de 50 000 policiers et gendarmes dans la capitale. Une première satisfaction sécuritaire pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui a effectué une visite surprise hier soir pour nous à la préfecture de police de Paris.
Tous les experts nous disaient qu'avec la menace terroriste, les risques que cela comportait, ce serait impossible. Je veux saluer le travail remarquable de nos services de renseignement. Mais je le dis et je le redis, ces jeux sont possibles parce qu'il y a au total des centaines de milliers, plus de 250 000 forces de sécurité intérieure qui passeront l'été à protéger, à surveiller. Et donc merci pour cela.
Quant à la cérémonie elle-même, si la grande majorité des 320 000 spectateurs a apprécié le spectacle, certaines séquences, certains tableaux ont fait l'objet de critiques dès la fin de la cérémonie. Mauvais goût ou wokisme, des critiques résumées ce matin sur Europe 1 par Amaury Brulet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles.
Les concepteurs avaient annoncé la couleur, ils voulaient faire l'inverse, avaient-ils prévenu, du Puy du Fou. Voilà, donc le résultat est réussi, avec dans les points positifs, évidemment, la prestation de Lady Gaga, qu'on ne présente plus, la Marseillaise superbement interprétée depuis le toit du Grand Palais. Et pour les points négatifs, la Marie-Antoinette décapitée, je trouvais que c'était un peu hors de propos, et globalement, plusieurs fautes de goût et des provocations inutiles, et notamment pendant près d'une heure, où on a vu, lors d'une longue séquence, une sorte de promotion de l'idéologie woke, très clairement, et même LGBT. C'est surtout la forme, moi, qui m'a gêné, j'ai trouvé ça très vulgaire.
Des critiques auxquelles a répondu sur la même antenne Shannon Sedan. Elle est présidente du parti Renaissance pour la Seine-Saint-Denis.
Je comprends que certaines scènes peuvent choquer, je comprends que certains tableaux peuvent choquer. Bien évidemment, je l'entends et loin de moi ici l'idée de vous dire et de foncer tête baissée et de dire non, c'était superbe. Je peux comprendre les divergences de goût. Mais encore une fois, je trouve que sur 4 heures de cérémonie, cela ne vaut pas le coup de s'attarder autant sur les critiques. Ce que je retiens, c'est 4 heures de spectacle absolument grandiose.
Une cérémonie d'ouverture qui, quoi qu'il en soit, a été vue par 22 millions de téléspectateurs en France et plus de 1 milliard à travers le monde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h16.
Au lendemain de l'acte de sabotage coordonné qui a paralysé la quasi-totalité du trafic des TGV en métropole, bloquant plus de 800 000 personnes dans les gares, une revendication est parvenue par mail à plusieurs rédactions dans le monde, dont deux organes de presse écrites en France. Johan Madec pour Europe 1.
Pour l'instant, on a encore très peu d'informations autour de ce mail reçu par de nombreuses rédactions dans la journée. Il pose en tout cas beaucoup de questions et est analysé en ce moment même par la police. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit bien des propos de ceux qui ont commis les sabotages ou d'une manipulation. Mais pour Marc Roland, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, le texte, si ce n'est pas un faux, confirmerait les motifs politiques de l'attaque.
Pour l'heure, il semblerait que ce soit des propos relativement originaux, puisqu'ils ne sont pas forcément référencés en base, mais que la rhétorique, l'idée de fond, effectivement, pourrait faire penser à une obédience de gauche ou ultra-gauche.
À part cette revendication, peu d'informations filtrent sur l'enquête. Gérald Darmanin a évoqué ce midi, je cite, « un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'on saura assez rapidement qui est responsable ». Effectivement, une camionnette et du matériel incendiaire ont été retrouvés sur l'un des lieux attaqués, ce qui permet aux enquêteurs de chercher des traces ADN, pister le trajet du camion, le propriétaire, bref, d'exploiter toutes les pistes possibles. Mais en attendant, une certitude, l'acte était très préparé et coordonné. L'enquête est donc complexe et risque d'être longue, mais le ministre de l'Intérieur veut aller vite et l'assure. Les effectifs sont au travail partout en France.
Un mail de revendication signé d'une organisation intitulée « Délégation inattendue » et qui estime notamment que les Jeux Olympiques sont, et je cite, « la démonstration de l'assujettissement des populations par les États ». L'actualité à l'étranger marquée par ce nouveau drame en Israël, un tir de missile attribué au Hezbollah libanais a tué pas moins de 11 enfants dans une localité du Golan au nord du pays. Récit Caroline Baudry.
11 enfants décédés et une vingtaine de blessés très graves selon l'armée, qui ajoute que c'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis celle du 7 octobre. Le tir a atteint un terrain de football dans lequel se tenait un tournoi. Sur place, des secouristes ont découvert destruction et objets en feu, des blessés allongés sur l'herbe, des hélicoptères et unités de soins intensifs mobiles ont été déployés. L'armée affirme que le responsable du tir meurtrier, le Hezbollah, qui de son côté nie en être l'auteur, tir intervenu après l'annonce de la mort de 4 de ses combattants dans une frappe imputée à Israël. Le gouvernement libanais appelle à la cessation immédiate des hostilités.
Une attaque à laquelle le gouvernement israélien a bien l'intention de répondre. Et après ce nouveau drame, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'État d'Israël, tandis que l'Union européenne a dénoncé un bain de sang inacceptable et demandé une enquête indépendante. Plus près de nous, dans la région, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une véritable tuerie qui a fait pas moins d'une trentaine de morts. Le drame s'est produit dans la province du Sépik oriental, Jean-Pierre Zalac.
Un simple problème foncier semble être à l'origine de cette tuerie. Selon la police locale, une trentaine d'hommes armés de coupe-coupe, de gourdins et de lance-pierres ont fait irruption de nuit dans 3 villages de la province du Sépik oriental, dont les habitants ont tous été massacrés. Les femmes ont été violées avant d'être tuées et certaines ont même été mutilées. Toutes les cases ont ensuite été incendiées, les plantations vivrières détruites. Selon le directeur régional de la police, au moins 26 personnes ont été massacrées. Leurs dépouilles mortelles, en fort état de décomposition, ont été abandonnés au soleil, ce qui va rendre quasiment impossible tout enterrement digne de ce nom. Port Moresby a décidé de l'envoi sur place d'importants renforts de police afin de retrouver les auteurs de la tuerie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et 20 minutes sur Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause avant de s'intéresser évidemment aux Jeux Olympiques avec un premier sacre pour la France.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Gilles Ménage, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une du sport, bien sûr, les Jeux Olympiques. On ouvre tout de suite notre page spéciale Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
L'événement du jour pour le camp tricolore, c'est la première médaille d'or décrochée par l'équipe de France masculine de rugby à 7, Mickaël.
L'exploit des Bleus qui remporte donc ce tournoi olympique. L'aboutissement de longs mois de travail pour cette équipe de France qui avait coché la case finale jusqu'à sa victoire face au redoutable Fidjien, double tenant du titre. Succès de l'équipe de France 28 à 7. Antoine Dupont a encore fait des prouesses avec une passe décisive et deux essais. Écoutez la réaction du Toulousain, désormais champion olympique de rugby à 7.
C'est sûr que quand je suis arrivé le premier jour à Marcoussis, je me demandais un peu ce que je faisais là, si mon choix était le bon, de ne pas pouvoir faire le tournoi. Enfin, ça a été beaucoup de choix qu'il a fallu faire en peu de temps et beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices, des forfaits pour être à mon meilleur niveau possible avec cette équipe qui me l'a rendu si bien. Donc maintenant, il faut profiter. Et on savait que physiquement, on serait mieux que sur la fin de match. On avait vraiment travaillé dur. On a des principes de jeu aussi très solides qui, on le sait, étaient très efficaces aussi si on les respectait, si on restait dans nos schémas et si on mettait bien sûr ce supplément d'âme qu'il faut pour gagner les finales. Et je pense que l'état d'esprit de l'équipe, il a été remarquable. Et au fur et à mesure du match, on l'a construit et on allait se chercher cette victoire.
Voilà pour cette première médaille d'or dans le tournoi masculin de rugby à 7. Le compteur de médailles françaises avait été débloqué un peu plus tôt en judo. Shirine Boukli avait remporté la petite finale chez les moins de 48 kilos, le bronze donc. Et Lucas Mekedze avait décroché, lui, l'argent chez les moins de 60 kilos. Et puis, toujours lors de cette première journée, on a cru très fort à un nouveau sacre en escrime. Mais malheureusement, Oriane Malo-Breton a fini avec la médaille d'argent en perdant à la mort subite lors de la finale de l'épée dames contre la Hongkongaise Kong. La Française avait tout de même réalisé un beau parcours jusqu'à cette finale-là.
Je pense que c'était trop facile au départ et du coup je suis un peu sortie de mon match et puis elle a bien su varier, elle a bien su me faire déjouer. Donc voilà, elle est numéro 1 mondial, c'est pas pour rien non plus. Elle a été plus forte, faut accepter et voilà, je sais d'où je pars aussi, je sais que ça peut s'arrêter en tableau 32. Donc faut voir aussi la compète dans son ensemble et être conscient de ce qui s'est passé aujourd'hui.
Voilà pour cette quatrième médaille française donc décrochée lors de cette première journée d'épreuve. Programme très riche avec également du basket et la France qui a réussi son entrée en lice face aux Brésiliens 78 à 66. En revanche, handball, les Bleus sont tombés face aux Danois 37 à 29 dans un match de poule, on le rappelle, qui avait tout de même des airs de finale avant l'heure hein, pour les deux mêmes sélections qui s'affrontaient pour le titre lors des JO de Tokyo. Les Français de Luka Karabatic devront donc se ressaisir pour espérer garder leur couronne. En football, les joueurs de Thierry Henry se sont imposés sur le fil contre la Guinée dans le tournoi masculin. La deuxième journée des phases du groupe A, succès des Bleus 1-0. En waterpolo, l'équipe de France féminine a perdu son premier match contre les Espagnols 15-6. Autre déconvenue, la fin du parcours d'Estelle Mosley en boxe, championne olympique de Rio en 2016. Elle a été éliminée en 16e de finale chez les moins de 60 kilos. En tennis, l'aventure s'arrête également pour Caroline Garcia, éliminée par la Roumaine Jacqueline Christiane en 3-7. Au tableau des médailles, en tout cas, l'Australie a pris les devants grâce notamment au début des épreuves de natation et le cyclisme. Pas moins de 3 titres pour les Australiens. Le contre-la-montre chez les féminines pour Grace Brown, le relais 4x100 mètres féminin, le 400 mètres pour Ariane Titmus et la Chine qui est deuxième du tableau des médailles. Les États-Unis sont troisième et la France qui pointe tout de même à la quatrième place.
Le programme est donc dense et il va falloir s'y habituer, Mickaël, avec notamment un coup d'œil déjà aux nombreuses disciplines à suivre dès ce soir.
La natation encore et le très attendu Léon Marchand sur le 400 mètres 4 nages. Il y aura aussi du tennis de table avec les frères Lebrun en individuel, le tir à la carabine, le tir à l'arc par équipe féminine, la suite des épreuves en judo, boxe, escrime, le fleuret féminin et l'épée homme, l'équitation, l'aviron, le beach volley, le skate, le badminton, la voile et l'entrée en lice cette fois en IQ folle du Calédonien Thomas Goyard à Marseille. Et puis toujours sur l'eau, hein, puisque les JO de Paris font voyager décidément, on rappelle aussi que les épreuves de surf se disputent en Polynésie française en ce moment même sur le spot de Teahupo. Le Tahitien dont la mère est originaire de Nouvelle-Calédonie, Kaoli Vast, ne s'est pas encore qualifié pour la suite de la compétition. Il devra passer par les repêchages après son premier round. Il reste optimiste, on l'écoute.
Il faut cette première série pour se mettre en jambes, remettre les pieds sur la planche, la wax, la compète, le hit, c'est 30 minutes. Voilà, il y a beaucoup de règles aussi, donc je suis content quand même. J'ai juste eu ma première vague. Voilà, si je sortais, je pense que ça aurait fait la différence. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai tout donné, j'ai pas fait d'erreur, je pense pas. Et la compète, elle commence maintenant et voilà.
Concernant encore le programme à venir, du volley avec France-Serbie l'année prochaine, du water-polo masculin avec un France-Hongrie, en hockey sur gazon, un France-Pays-Bas, du football avec cette fois les féminines, les Françaises qui affronteront les Canadiennes, tandis que les handballeuses tricolores feront face aux Néerlandaises. Et puis surtout, en rugby à 7, ce sera au tour des féminines de Yolen Niengo de débuter leur tournoi la nuit prochaine contre les Brésiliennes, France-Brésil. Ce sera à suivre à partir de 2h du matin pour nous.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et tout au long de cette quinzaine olympique, vous le savez maintenant, nous vous proposons de jouer sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de Jeux Olympiques pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Le principe est simple, chaque jour dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 31-46 jusqu'à 17h qui est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous aurez la réponse à la question du jour et bien sûr le nom du gagnant. Alors écoutez bien la question du jour, quel est le seul cavalier français qui a obtenu 2 médailles d'or dans le concours individuel de saut d'obstacle. Si c'est Pierre Durand, vous tapez JO1. Si c'est Marcel Rosier, vous tapez JO2. Si c'est Pierre Jonquière d'Oriola, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Vous avez donc jusqu'à 17h ce soir pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, le gagnant remporte, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et sur le reste de la planète sport, on évoque à présent l'actualité des sports mécaniques.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spécial Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est donc le monégasque Charles Leclerc qui a signé la pole position en vue du Grand Prix de Belgique, Mickaël.
Ouais, si Max Verstappen sur Red Bull a dominé les qualifications sous la pluie à Spa-Francorchamps, il ne partira que de la 11e position sur la grille de départ en raison d'une pénalité de 10 places pour changement de moteur. C'est donc Charles Leclerc sur Ferrari qui a hérité de cette pole position juste devant Sergio Pérez sur l'autre Red Bull. Charles Leclerc qui ne s'attendait pas à ce résultat.
J'ai fait la Q1 et la Q2, je savais que je roulais plutôt bien, qu'il y avait encore encore un petit peu de marge. Mais bon, je me suis dit P4 peut-être si je fais vraiment un très bon tour. Et après en Q3, j'ai mis tout dans l'ordre et on a fait P2. Donc je suis plutôt content, surtout que les Red Bull avaient un petit peu plus d'appui que nous, ce qui aide dans ces conditions-là. C'est positif pour nous parce que demain on aura un petit peu moins d'appui et ça c'est bien. Après il faut être réaliste aussi. Je pense pour la course demain, on a McLaren qui est sur une autre planète. Si ils retrouvent la perfo qu'ils avaient hier dans les simulations courses, ils étaient sur une autre planète. On a Red Bull qui est sur la même planète qu'eux, et après il y a nous et Mercedes, donc ça va être compliqué de les garder derrière, mais on ne pouvait pas espérer mieux qu'une première place pour le départ.
Un Grand Prix de Belgique à suivre ce soir, départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Nouvelle-Calédonie à présent et avec la suite des championnats territoriaux de padel.
Oui, deux week-ends de matchs hein, dans la bonne humeur avec de très nombreux inscrits. Les tournois pour les qualifications ont débuté hier. Ils se poursuivront le week-end prochain. Stéphane Degaillande, joueur et juge-arbitre de ces championnats de Calédonie de padel.
Le championnat de Nouvelle-Calédonie se fait sur deux sites, une partie à l'Olympique, une partie au receiving et on gère l'arbitrage et l'organisation de ce tournoi. C'est un événement qu'ils attendent particulièrement puisque c'est une fois dans l'année, c'est un très gros tournoi où exceptionnellement tous les joueurs peuvent intégrer le tournoi, il n'y a pas de rapidité dans l'inscription, c'est ouvert sur plusieurs semaines, donc du coup on se retrouve avec 67 équipes masculines et 32 équipes féminines, ce qui est énorme. Et à chaque tournoi il y a énormément de demandes, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a ce championnat parce que justement on ouvre l'inscription à tout le monde et tout le monde a le temps de s'inscrire et c'est génial parce que ça met une bonne ambiance et tout le monde est content, tout le monde s'amuse. Plus ça va et plus les gens raffolent de ce sport, s'éclatent, s'amusent, c'est ludique, voilà. Ça met une bonne complicité dans l'équipe et voilà, c'est très ludique.
Des championnats territoriaux qui donneront l'occasion aux gagnantes et gagnants d'aller disputer les championnats de France du 13 au 15 septembre prochain dans la ville de Strasbourg.